Bonjour à tous, chers auditeurs d'Au fil du temps. Ici Chantal Doré au micro de cette émission qui relie les générations et souhaite vous offrir un bouquet de conseils pour faire fleurir le temps qui passe. Au moment où je vous parle, les lilas sont en fleurs. Au moment où vous nous écoutez, si c'est en balado-diffusion, il est possible que déjà leur charme se soit évaporé ou qu'un nouveau cycle de floraison soit en route. Telle est la vie, changeante, mouvante, remuante. Et tel est mon premier invité. Il nous a remué magistralement, profondément, dans son interprétation absolument extraordinaire de Jerry Boulet dans le film qui porte le prénom Jerry, ou encore dans les traits et les émotions à fleur de peau de Jean-Pierre le Sidéen ou d'Alain le Schizophrène, des personnages marquants de la série avec un grand A signé Jeannette Bertrand. Jeannette que nous avons d'ailleurs reçue en entrevue le 15 décembre dernier et que vous pouvez toujours réécouter en radio-diffusion, en rediffusion. Notre invité, vous avez peut-être deviné son invité, est le grand, grand acteur Mario Saint-Amand, qui est aussi changeant tant par l'évolution de son parcours professionnel que par la façon dont il a pris la vie à bras-le-corps pour lutter contre de vieux démons. Bien hâte qu'il nous raconte tout ça dans le creux de l'oreille. La deuxième invitée d'Au fil du temps a aussi eu un parcours diversifié. D'enseignante en communication d'affaires en français et en anglais au collégial, à animatrice d'ateliers sur la préparation à la retraite, en pensant par conférencière sur la peur et les transactions et les transitions, mon Dieu, quel drôle de lapsus, vers une vie plus authentique. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines, je vous lançais un appel en vidéo sur ma volonté d'accueillir au fil du temps des êtres d'expérience. Alors, des amis de mon invitée, Charlotte Boulanger, ont sauté sur l'occasion et se sont dit « Tiens, Charlotte est une naturelle pour Au fil du temps ». Alors, très, très hâte de découvrir tout le parcours de Charlotte. Et pour lancer cette 46e émission d'Au fil du temps, évidemment, un classique « Les yeux du cœur » de Jerry, chanté par Mario Saint-Amand et par Marjo.
Encore une nuit blanche, passée sur les planches, à tenter la romance au bal des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié, et puis sur le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur.
Ensemble, ils sont partis. La fête a continué. J'ai vu la solitude danser au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu la solitude danser et j'ai laissé mon cœur parler.
Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur. Les yeux du cœur.
C'est à ton tour.
Aujourd'hui,
avec les yeux du cœur, je suis plus sensible à la musique, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur.
C'était Les yeux du cœur de Géry Boulet, chanté par Marjo et Mario Saint-Amand. Mon invité pour cette émission d'Au fil du temps, Mario Saint-Amand est un acteur magnifique qui nous a impressionnés dans des rôles marquants pour lesquels il s'est donné corps et âme jusqu'à perdre 20 livres pour son interprétation de Jean-Pierre le Sidéen dans L'amour avec un grand A. Mario a aussi su transformer sa vie, étant désormais membre de l'équipe de chercheurs universitaires au Centre de services en réadaptation en dépendance au CIUS de la capitale nationale, après des études, en fait un certificat en études autochtones et en toxicomanie, et il envisage de faire sa maîtrise en dépendance. En fait, je dirais, il a dû pas mal la faire, cette maîtrise des dépendances dans sa vie personnelle, après un gros accident et bien des sorties de route métaphoriques avec les dépendances. Bref, Mario Saint-Amand sait de quoi il parle, à la fois théoriquement et concrètement. On en discute avec lui. Bonjour, Mario.
Eh bien, bonjour à vous.
Je pensais pas entendre ce grain de voix si authentique un jour, directement dans mes oreilles.
Ben voilà, c'est fait. C'est fait. Là-dessus... C'est complet, on peut...
non, on commence, on vous garde pour un petit bout.
Ah oui, mais là, il faut tout de suite préciser une chose. C'est qu'effectivement, j'ai fait partie de l'équipe de Joël Tremblay, le chercheur principal en toxicomanie de la capitale nationale. Mais depuis, dû à la COVID, il y a eu une coupure de budget, puis j'ai dû les quitter au mois d'octobre. Alors, malheureusement, moi, ça me donnait l'opportunité de pouvoir... bien desservir mes études, d'un petit travail qui permettait de subvenir un peu à mes besoins, parce que comme vous le savez, c'est un minimum de 10 000 $ par année que ça coûte pour des études universitaires.
Ouais.
Mais écoutez, je suis là de toute façon, non pas pour m'accabler sur mon petit sort d'universitaire, mais bien pour parler des résultats que l'on a lorsqu'on fait des recherches. Les directions qu'on peut prendre pour son mieux-être.
Donc, en fait, ce qui est drôle, Mario, c'est que en fait, c'est votre première vie, le rôle de Géry, à ce que j'ai compris, qui a été le déclencheur d'une réflexion sur votre propre relation, en fait, votre propre toxicomanie. Vous avez eu une prise de conscience, à ce que j'ai compris.
Oui, je ne sais pas ce que vous...
Insinuer?
Par première vie, là, je veux dire ce que vous voulez dire par première vie, parce qu'en fait...
Ça continue, on est acteur toute notre vie. Hein?
Oui, mais en même temps, je vous dirais que l'être humain, à la base, est un être qui, dès sa naissance, tant ni plus ni moins au fil des rencontres et des nombreux aléas de la vie, de tenter de se construire. Mm-hmm. Donc... c'est sûr que il y a dans ces circonstances-là, des fois très heureuses, des fois moins heureuses, des chemins, des parcours qu'on va prendre pour tenter d'arriver à mieux se sentir.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes? Oui, on peut évoquer ça de cette manière-là, mais est-ce que il y a une vie qui l'emporte sur l'autre à l'intérieur de toute notre vie? Je ne crois pas. Je pense que ça est un
continuum.
Un continuum, puis un complément de l'un vers l'autre. C'est-à-dire que si j'ai commencé à consommer très jeune, c'est des suites à différents traumatismes que j'ai vécu jeune, dont des nodules au corps vocal qui m'ont empêché de parler pendant plus de 6 mois et qui ont fait que, suite à ça, j'ai rencontré une gang avec laquelle j'ai commencé à consommer un peu de pot et puis de l'alcool, et qui m'a donné à ce moment-là l'envie de pouvoir partager davantage avec eux, parce que j'ai senti une libération. Ce qu'on appelle une libération, si je peux définir cette libération-là à ce moment-là, c'est que j'ai senti enfin en dedans de moi quelque chose qui se libérait, c'est-à-dire que j'avais une tension intérieure qui faisait que j'avais de la difficulté à communiquer avec mes parents, mm-hmm. mon père et ma mère, qui, eux, avaient de la difficulté à comprendre c'est quoi que je vivais à travers mm-hmm. les traumatismes que me faisaient subir les sœurs où j'étais pensionnaire.
Comme malheureusement, beaucoup de gens, ouais. Mm.
Oui, comme plusieurs, puis pas juste les Blancs, les Autochtones qui mm-hmm. l'ont vécu, mais d'une façon encore plus traumatisante. Mm. C'est ce qui fait que la majorité d'entre eux en sont venus à ni plus ni moins à prendre l'alcool comme une médecine. Comprenez-vous? C'est là mm-hmm. que je veux en venir.
Oui.
C'est qu'à travers vos questions, l'alcool et la dépendance va toujours rester pour le commun des mortels qui dépasse, qui en vient à se fragiliser la vie avec l'alcool et la drogue, une médecine personnelle pour arriver à combattre un mal intérieur.
Justement, avec vos études, mettons, plus théoriques sur la relation à l'alcool, j'avais plein de questionnements sur ça parce que je sais que dans le contexte de la COVID, on l'a brièvement évoqué, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu recours aussi à cette médecine-là pour essayer de... parce que nos repères étaient complètement déstabilisés. Et oui. je me demandais, est-ce qu'on peut considérer que l'alcoolisme est héréditaire ou ça nous rend plus à risque?
Oui. Dénoncer le fait que ça nous rend plus à risque est un fait. C'est-à-dire mmh. que c'est certain qu'un jeune qui n'est pas dans un milieu où est-ce que l'alcool coule à flot ou même que les parents consomment des petites ou des drogues dures, c'est sûr que l'enfant mm-hmm. est moins amené à consommer. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement que parce que le parent ne consomme pas, qu'il ne vivra pas des traumatismes qui vont l'amener à consommer ailleurs que dans mm-hmm. la maison. Ce qui fait que la communication est la base de l'être humain. Oui. L'être humain sans communication est un être mort. Hein, ça, c'est Henri Laborie, que j'ai connu, moi, grâce à Jeannette Bertrand en 1991. Oui. Qui est un éminent biologiste français mm-hmm. et qui a écrit, entre autres, L'éloge de la fuite, sur lequel, moi, j'ai appuyé nombre de mes personnages sur lesquels je me suis construit. Ben oui, c'est très biologique. Hein, je veux dire, les personnages ne sont pas une construction qui est une valeur intrinsèque, comme peuvent le mentionner certains acteurs ou actrices, les grands bien leur face, s'ils le croient, mais il y a quelque chose de mathématique et de biologique. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur quelque chose à l'intérieur de nous mm-hmm. qui est...
comme un levier pour se partir, pour une connexion vers l'émotion.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que cette émotion-là qui est de l'ordre, si on prend l'exemple d'un schizophrène, au moment où est-ce que j'ai rencontré Jeannette en 1991, mm-hmm. moi, j'étais sur mon départ du Québec parce que j'avais décidé de partir vers l'Europe, plus précisément l'Italie, pour aller faire une carrière d'acteur, parce qu'ici, j'étais mal, j'étais pas bien, j'avais été mise à la porte par l'école de théâtre qui disait que je pourrais jamais faire une carrière à cause de ma voix. J'arrivais difficilement à pouvoir trouver ma place dans une famille où est-ce que mes parents n'étaient pas heureux ensemble. Alors, j'avais décidé de quitter le Québec. Et avant de quitter, mon agent m'appelle et il dit « Avant de quitter, tu pourrais rencontrer Jeannette Bertrand. » Et lorsqu'elle m'a rencontré et j'ai fait l'audition avec elle, mm-hmm. elle m'a dit « Arrête, tu me fais peur. » Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, ce n'est pas que je l'ai impressionné. C'est qu'à l'intérieur de moi, le personnage de Jean-Pierre avait ce trouble-là qui m'habitait moi.
Elle le sentait.
En fait, ce qu'elle a senti, c'est le trouble de Jean-Pierre.
Ouais.
Mais moi, ce que j'évoquais à l'intérieur du trouble de Jean-Pierre, c'est mon trouble à moi.
Mm-hmm. Vous avez réussi à vous connecter à ça pour rendre ce personnage-là crédible.
Voilà. Donc, en partie, parce que c'est inconscient à ce moment-là. Mm-hmm. Je veux dire, à ce moment-là, je sais que je ne vais pas bien, mais à ce moment-là, lorsque je le fais, c'est sûr que inconsciemment, je mets le... C'est peut-être, mettons, 10% de malaise que je vis par rapport à 90% de ce que je suis dans la vie de tous les jours. Et ce 10%-là, dans la peau de Jean-Pierre, devient 100%.
Mm-hmm.
Alors, c'est pour ça que je
comme
dis
magnifié, comme si vous preniez ça, mais vous le magnifiez.
C'est ça. Comme lorsque on crée un personnage sur l'amour, on va magnifier toute notre passion amoureuse que l'on a pour la vie, pour une personne, mm-hmm. pour arriver à le transporter à l'intérieur, de transposer à l'intérieur du personnage, ce qui fait qu'on incarne le personnage, mais à 100% du pourcentage minime que l'on a à l'intérieur de nous, et qui fait qu'on va développer ça. on va développer le caractère propre de ce personnage-là.
Mario, tout de suite après la pause musicale, on va tenter de voir comment vous avez réussi à magnifier la partie de bonheur qu'il y avait en vous pour faire ce grand changement. Donc, on va écouter une chanson de Boris Vian, « Je bois ».
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Que j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission avec Chantal Doré.
Hey, merci Jeannette pour avoir vraiment changé la vie de Mario Saint-Amand. Alors, on écoutait la pièce « Je bois » et votre vie a changé. On pourrait dire maintenant « Je buvais
hein. ». Oui, absolument. Ça me touche donc bien. Vous avez fait une entrevue avec Jeannette, puis elle vous a fait une introduction comme celle-là, quoi.
Oui, on était tellement contents qu'elle dise oui.
Wow, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Jeannette, elle me donnera toujours des frissons chaque fois que je l'entends, c'est sûr que... Alors oui, effectivement, pour répondre à votre question, c'est sûr que c'est un passage important dans ma vie. Mm-hmm. C'est quand même plusieurs décennies de consommation. Mm-hmm. Et sans me rendre compte, comme l'explique si bien Boris Vian, qui malheureusement a choisi, lui, de mettre fin à ses jours, c'est un peu troublant, mais en même temps, c'est aussi ce qui arrive pour la grande majorité des personnes qui ne se rendent pas compte, finalement, qu'ils sont en train de se noyer à l'intérieur, de noyer leur mal à l'intérieur de la consommation, ce qui arrive, comme vous l'avez fait en introduction d'entrevue, ce qui arrive en ce moment pendant la pandémie,
Et on parlait du personnage où on réussissait à magnifier un trait, et je vous demandais comment, lorsqu'on décide de prendre ce virage vers plus de légèreté, de bonheur, ou vers comment on fait pour magnifier justement cette petite zone-là de bonheur et de faire en sorte qu'elle prenne 100%? Enfin.
Ah, bien, de la même façon qu'on magnifie celle qui va pas bien, ça se fait. C'est très mathématique. Hein? J'explique toujours ça à chaque personne qui vient de me voir, des personnes qui viennent me voir pour suivre des ateliers de théâtre. Je leur dis que à la base, moi, mon maître, c'est Daniel Fichaud, le comédien qui a ouvert une école de théâtre. Et puis, la base de ce que j'ai travaillé avec Daniel il y a 33 ans, et ça, c'est très mathématique, le travail d'un personnage. C'est-à-dire, on prend ça un peu comme une partition musicale, en fait. À l'intérieur du personnage, il y a plusieurs émotions qui sont plusieurs violons, et puis les violons ne joueront pas tous la même note. Ils vont jouer différentes évolutions, évidemment, à l'intérieur et pas toujours ensemble. Donc, ce qui fait que le personnage, à certains moments, va jouer qu'une seule note et des fois va jouer plusieurs notes en même temps, ce qui va dévoiler une autre partie de ce personnage-là. Donc, lorsqu'il est amoureux, ça va être une note continue et lorsqu'il est en colère, ça va être plusieurs notes à la fois. Il faut définir quelles sont ces notes-là pour définir quel est le personnage. Alors, c'est pour ça qu'une fois qu'on a terminé toute la partition de ce personnage-là, du début à la fin de son drame, un drame, en fait, ça peut être aussi heureux que malheureux.
C'est de l'exaltation. On vit quelque chose, on vibre fort.
Ben oui, Roméo et Juliette, c'est un drame amoureux. Donc, c'est pour ça que je parle de drame, mais en même temps, parlons de vie heureuse, là, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Donc, ça peut être cette définition-là de vie heureuse du personnage ne peut pas être jouée sur le même ton tout le temps, parce qu'autrement, on va se lasser, on va se tanner, on n'aura pas de plaisir à regarder ce personnage-là évoluer.
Et comment, justement, cette approche mathématique où vous décortiquez votre personnage, comment une personne, justement, qui est en réhabilitation peut s'inspirer de votre approche?
Ben, en fait, la personne qui désire, hein, parce que ça part toujours de la personne elle-même, parce que plusieurs à m'écrire sur Facebook, entre autres, pour me demander qu'est-ce que je fais avec mon enfant, qu'est-ce que je fais avec ma femme, qu'est-ce que je fais avec mon mari, vous ne pouvez rien faire tant et aussi longtemps que cette personne-là ne veut pas elle-même se sortir de où est-ce qu'elle est. Quand on parle du syndrome de la femme battue, si la femme croit qu'elle va retrouver le premier mois qu'elle a passé avec son amoureux, où est-ce que c'était la lune de miel, mais que ça fait 5 ans qu'elle vit le calvaire et qu'elle se fait battre, on n'arrivera jamais à faire comprendre à cette femme-là, ou cet homme-là, parce qu'il y a des hommes battus aussi, ou cet homme-là, que cette personne-là ne pourra pas revenir comme elle était, puisqu'il y a quelque chose de manichéen à l'intérieur de cette personne-là, qui fait qu'elle ne peut se sentir aimée, elle ne se donne pas le droit de se sentir aimée, donc elle va manipuler la personne jusqu'à l'anéantir et la faire disparaître parce que pour elle, ce n'est pas possible. Donc, voyons cette situation-là comme une problématique à deux. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui, d'un côté, est méchante et répulsive par rapport à l'amour que lui porte une tierce personne, et l'autre personne va continuer à croire que l'amour qu'elle a reçu pendant X moments par cette personne-là peut revenir, donc elle va courir après cet amour-là qui est impossible. Donc, pour répondre à votre question, en fait, c'est que lorsqu'on en arrive à définir le besoin qu'ont les personnes de retrouver une force à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est de pouvoir comprendre que nous sommes tous malades à différents niveaux.
D'aller chercher le noyau dur de bonheur aussi qui existe, qu'on peut... Je suis curieuse de vous entendre. Vous parlez qu'on vous interpelle sur Facebook et j'ai cru entendre que vous offrez ou que vous souhaitez offrir des conférences pour les jeunes, justement, parce que je sais que chez les jeunes aussi, il y a des situations de vie conjugale là, qui ne sont pas toujours évidentes.
Ben là, entendons-nous, là, je vous ai dit tout à l'heure que ma problématique a démarré à l'âge de 11 ans.
Mm-hmm.
Alors,
ouais.
Si vous me dites à moi que les jeunes ont des problèmes, je suis ouais. celui qui est là, qui vous témoigne que uh-huh. les problématiques ont commencé à la préadolescence.
Mm-hmm.
Donc, si vous me dites qu'il y a des problématiques, je vous dis oui. Maintenant, les conférences que je donne dans les écoles sur l'estime de soi, la drogue, mm-hmm. l'alcool et les consommations qui ont une amplitude sévère sur le fonctionnement du cerveau, si le but, finalement, c'est de faire prendre conscience aux jeunes qui sont à l'école et que leur cerveau est en développement jusqu'à l'âge de 23 ans.
Absolument.
Alors, c'est sûr qu'il est important à ce moment-là qu'ils comprennent que, d'une manière très...
mathématique aussi encore?
Mathématique, mais en même temps, j'allais dire, c'est parce que... Oui, neurologique, voilà. Mm-hmm. C'est neurologique et c'est aussi après toutes les recherches qu'on a faites.
Mm-hmm.
Donc, c'est appuyé sur des recherches, c'est appuyé sur un complément d'objectifs qui a été fixé par des chercheurs et qui permet de comprendre le fonctionnement du cerveau en lien avec les différentes consommations qu'on va prendre. Donc, et le cerveau, en lien avec les consommations, est aussi mmh. en lien avec l'émotion.
Ouais.
C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et le jeune est constamment dans une bulle d'émotion. Quand on est adolescent, on le sait, on se construit émotivement, on tente de trouver notre place en ce monde. Et puis, dès qu'il y a une déviation, eh bien, cette déviation peut nous écarter longtemps du chemin jusqu'à temps qu'on puisse se retrouver
Mario,
sur notre X. Oui.
Mario, je vais inviter les gens, les directeurs d'école peut-être, qui veulent retenir vos services de conférence et on les amène sur votre page Facebook?
Oui, mais en fait, je fais partie aussi d'un... Oui, absolument. On l'a sur ma page Facebook. C'est certain que... Bon, c'est
Mario, vous m'avez épaté en observant vos rôles, mais là, vous m'avez épaté en étant vous-même. Un gros merci.
C'est déjà fini.
Ben oui.
Ah, ben, écoute,
on vous réinvitera.
Ça a passé trop vite. Ben,
oui.
Écoutez, ça m'a fait plaisir de répondre et puis au plaisir de reparler avec vous. Merci infiniment de votre invitation.
À très bientôt, Mario. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Toujours à l'antenne d'Au fil du temps pour parler du temps qui passe, du secret des aînés et de comment on pourrait réinventer sa retraite. Alors, je parle dans quelques instants avec Charlotte Boulanger qui a eu un parcours, ma foi, fort diversifié et qui m'a été suggéré par des auditeurs d'Au fil du temps. Alors, d'avance, je vous remercie. Et pour introduire Charlotte, voici la chanson du retraité de Félix Leclerc.
Quand on m'a dit que la compagnie me renvoyait chez moi à regret, j'ai bien compris qu'on avait vu ma main trembler. J'ai pris mon sac et mes claques, mon parapluie, mon micmac. Je suis passé par le parc et j'ai craché dans le lac. Quand des jeunes gens vous aident à monter dans les tramways ou vous donnent leur banc, mes petits vieux, sachez que l'heure a sonné pour vous d'acheter un chien berger. Car si vous vous obstinez à remuer des affaires, à jouer des coudes, à sauter, on vous retrouvera par terre. Allons au jardin avec le soleil, la canne à la main. Observons l'abeille, ce serait trop dommage. Avant de s'en aller, de pas rendre hommage aux fleurs parfumées.
C'était la chanson du retraité de Félix Leclerc et vous avez sans doute apprécié ce petit grain d'époque qui nous amène tant de nostalgie. Avant sa retraite officielle, ou je devrais dire formelle, où elle saura nous trouver le bon qualificatif, Charlotte Boulanger a été enseignante en communication d'affaires en français et en anglais au niveau collégial. Et pendant une vingtaine d'années, elle a animé des ateliers pour préparer un retour aux études ou sur le marché du travail, un retour aux études comme l'a fait courageusement Mario Saint-Amand qui était en première partie avec nous. Et des amis communs à Charlotte et à moi ont entendu mon appel aux êtres d'expérience que j'ai fait sur la page Facebook de l'émission, qui est d'ailleurs Au fil du temps Canalem, et ils se sont empressés de me recommander son passage à Au fil du temps. Bonjour Charlotte.
Bonjour Chantal.
Alors nous nous sommes connus, toi et moi, donc je te tutoie puisqu'on se connaît, alors oui. Que nous étions toutes deux conférencières dans le réseau Formatou, et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais des conférences beaucoup sur la peur et les transitions de vie.
Oui. Oui, c'était une époque très, très importante ça, dans ma vie parce que j'avais découvert que la peur m'avait coupé les ailes dans certains volets de ma vie. Alors, je tenais à partager cette information-là parce que j'aime toujours partager ce que je découvre.
Oui, une grande curieuse de la vie. Et oui. Je voulais qu'on parle, enfin, je voyais à travers ton parcours plusieurs éléments autour desquels on pourrait broder, mais je sais que tu as été particulièrement active dans la notion de transition psychosociale, de l'évolution de la retraite et que tu as une vision sur ce fameux âge d'or qu'on doit retraiter.
Oui. Oui, c'est important de considérer tous les changements. À l'époque de Félix Leclerc, là, les gens ne vivaient pas aussi longtemps.
Ouais.
Ils n'avaient pas eu le changement constant en accéléré qu'on vit depuis une quarantaine d'années. Alors, la retraite aujourd'hui, c'est tellement un concept plus vaste, plus fluide qu'autrefois. Moi, je ne sais pas là, combien de personnes vont se souvenir de leurs grands-parents. La plupart des grands-parents ne vivaient pas tellement d'années après leur retraite. Les femmes n'avaient pas une vraie retraite à cette époque-là parce qu'elles étaient souvent à la maison. Il y en avait très peu qui avaient travaillé toute une vie là, comme les femmes d'aujourd'hui. Donc, quand je parlais de la préparation à la retraite à des hommes et des femmes de 45 ou 50 ans qui n'avaient que quelques années avant de passer vraiment à la retraite, c'était des gens qui étaient très habitués au changement. Toujours au courant des nouvelles technologies, hein, c'est ce qui arrive, c'est différent. Aujourd'hui, là, une femme de 65, 70, 75, elle est sur Facebook, elle connaît Instagram, elle a déjà fait des voyages. C'est la même chose pour les hommes. Et les hommes avaient une transition plus marquée. C'était, ils travaillaient pendant toutes ces années-là et puis après ça, ils prenaient leur retraite. Puis c'était un énorme choc. Est-ce que tu savais, Chantal, qu'il y a une quarantaine d'années, là, il y avait un pourcentage pas négligeable d'hommes qui se suicidaient dans les 3 années après leur retraite?
Ah oui, hein. C'est tellement le choc est grand entre... Ben, j'imagine que c'est porteur d'une identité. T'sais, pour beaucoup, notre métier, on est porteur d'une identité, d'un certain... prestige, ben enfin, pas pour tout le monde, ça dépend ce qu'on fait aussi dans la vie, là. Ça dépend aussi comment on ressent cette notion-là, mais en fait, on a un rôle, on a une identité, on a un endroit où se rendre tous les jours, puis on a des gens qui attendent après nous.
Oui.
Et là, tout à coup, si on n'a pas bien préparé ça, il y a un film que tu connais peut-être, j'espère que les auditeurs, si vous n'avez pas vu ça, c'est un, je vous exhorte à écouter, About Schmidt.
Ça me dit quelque chose, ça.
Avec Jack Nicholson.
Oui. Ça, c'était vraiment très intéressant, oui. Et... c'est ce que disent certaines personnes, surtout des hommes. Mais ça arrive à des femmes aussi, hein. Les femmes comme moi, sans enfants, c'est différent. Je me souviens d'une femme qui s'était jamais mariée. Elle avait eu probablement quelques relations amoureuses, mais elle était très, très célibataire, pas d'enfants.
Très célibataire.
Très célibataire, oui. Et elle travaillait dans un poste de assez, pas exactement cadre, mais soutien très supérieur, là, à la ville de Montréal. Et dans cet atelier de préparation à la retraite, j'avais rempli le tableau avec toutes les réponses que les gens me donnaient quand je leur disais « qu'est-ce que ça signifie pour vous le travail? » Puis là, elle me disait toutes sortes de choses. Évidemment, l'argent, ça sortait. Mais il y avait aussi le sentiment d'utilité, le sentiment d'appartenance aussi, parce qu'on a toujours, on a des gens autour de nous quand on travaille. Une certaine routine, une certaine frustration aussi parce que les heures de loisirs sont plus limitées. Là, il y avait des bonnes choses, des choses moins agréables. Et là, tout à coup, je prends l'efface, puis très vite, j'efface tout le tableau. Ouais, et là, tout à coup, j'entends cette femme-là faire « Vous ne pouvez pas faire ça! » Mais j'ai dit « Mais oui, madame, c'est moi qui ai la brosse, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce qui vous dérange? » Elle a dit « Mais voyons, le travail, c'est toute ma vie. » Et ça, c'est la tragédie chez certaines personnes, c'est qu'elles ont mis complètement tout leur temps, toute leur énergie, toute leur créativité, tout dans le travail, avec très peu de... Elles vont peut-être aller manger avec des gens, mais ça va être des gens du travail ou après le soir. Et en dehors du travail, quand c'est fini, quand la retraite arrive, elle n'était pas prête. Savez-vous, elle avait 74 ans et elle n'était pas encore prête à prendre sa retraite.
Ben, en fait, c'est ça, on peut décider de dépendamment de l'âge, mais ce que j'ai particulièrement trouvé intéressant dans le texte que vous m'avez envoyé et qu'on pourra mettre sur la page Facebook de l'émission, c'est que vous parlez de trois types d'activités qu'on devrait chercher à retrouver à la retraite. Des activités agréables, engageantes et significatives. J'aimerais ça qu'on fasse le tri de ces trois types d'activités.
Oui, en fait, ça peut se recouper, et ça, c'est idéal quand ça se recoupe. C'est-à-dire que quelque chose qu'on aimait faire quand on travaillait pour nous détendre. Moi, je me souviens, quand j'avais mes librairies en Ontario, ce qui me détendait énormément, c'était d'aller jardiner. J'avais plein de plates-bandes et je passais des heures. Je me souviens, mon mari était obligé de venir me chercher à la noirceur pour que
vous perdiez le fil du temps, là, tellement vous étiez dans le moment présent.
Il dit, je vais t'acheter une lampe frontale. et ça aurait pu devenir une passion. Moi, j'ai visité des jardins de personnes à la retraite. Et des fois, quand c'est un couple, c'est fantastique, ils s'entendent bien. Ils développent une propriété en un jardin qu'ils font même visiter. Là. Alors, quelquefois, un passe-temps, quelque chose qui est agréable, peut devenir tellement engageant que ça devient une raison d'être. Puis il y a des gens qui ont ouvert leur jardin pour des raisons thérapeutiques. Des gens viennent faire des ateliers, de la thérapie de groupe et tout ça. Alors, l'idéal, c'est quand on peut combiner. Alors, on fait un petit peu de ce qu'on adore. Je connais une femme là qui aime beaucoup. Elle enseignait le piano, mais elle aimait beaucoup se détendre avec le pastel. Et bien maintenant, elle est en train de faire le tour du monde. Ben, pas pendant la pandémie, là.
Ça va revenir, cette expression-là. On va finir par y reconnecter.
Oui. Et elle rencontre tellement de gens. Elle a été invitée en Russie, en France. Elle était supposée partir au Japon parce qu'elle est devenue une experte dans le pastel. Et on lui a demandé d'écrire un article pour un grand magazine international de pastel. Donc, on peut avoir ça. Mais dans certains cas, notre travail, on en a eu assez. Moi, j'ai fait des préparations à la retraite pour des gens qui avaient travaillé dans les soins de la santé. Vous savez, le travail social, la santé mentale et tout ça. La délinquance juvénile, mais la protection juvénile et tout ça, c'est lourd. On ne veut pas continuer ça à la retraite. Là. On a besoin de repos. D'ailleurs, beaucoup de personnes plus âgées là, vont vous dire que dans certains cas, quand on prend la retraite, là, on a besoin de mettre la pédale douce. On a besoin de développer l'éloge du temps au ralenti.
L'éloge de la lenteur.
L'éloge de la lenteur. Et ça, c'est un cadeau de la retraite, ça. C'est qu'on peut se rapprocher de sa vraie nature.
Mm-hmm.
Les gens qui ont souffert d'avoir un réveil matin qui les sortait brusquement de leurs beaux rêves, là, ils n'ont plus besoin de faire ça.
Bien, c'est ce que j'aimais dans votre vision, Charlotte, dans ta vision, c'est de dire qu'une retraite réussie, c'est quand on l'a réussi aussi d'un point de vue spirituel, de se ramener vers sa vraie nature.
Oui, 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 oui. Plus on a eu l'occasion d'apprendre à se connaître, puis il y a des gens qui ont eu des épreuves qui les ont forcés à se connaître et à se redécouvrir, on arrive à un point où on sait à quoi on dit non pour protéger sa santé mentale, sa santé physique. Et on a une redécouverte de la qualité du silence. On a tellement d'occasions. Si on a été dans un travail plutôt solitaire et que notre nature était plutôt sociale, on n'est plus obligé d'attendre le soir ou la fin de semaine. Alors, il y a une authenticité qui devient possible. Si on fait des choix conscients, c'est formidable.
Il y a un choix dont vous parlez, Charlotte, que j'ai trouvé intéressant à la retraite ou en fait à tout âge, de choisir des amis d'âges différents.
Oh oui! Quand j'étais à Chicago, je faisais ma maîtrise à Chicago, j'avais à peine 30 ans, et il y avait une ancienne religieuse, tellement originale. Elle faisait des chapeaux pour des pièces de théâtre.
Ah oui?
Elle collectionnait des tissus extraordinaires. Et un jour, elle m'a dit, je lui avais demandé, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez passer du temps avec moi? Parce qu'on avait quand même 30 ans d'écart, là. Elle a dit, elle dit, ma chère, elle dit, t'as pas d'enfant comme moi, hein? Puis tu n'en veux pas? J'ai dit, non, j'en veux absolument pas. Alors, elle dit, écoute, un jour, là, si tu n'as pas des amis de tous les âges, tu vas passer ton temps dans les salons funéraires.
Ouais.
Et là, je me suis dit, waouh! Hey, ça, je devrais mettre ça dans mon chapeau, puis.
Dans votre chapeau,
oui. Ça, oui. Ça, c'est une expression anglophone. Je m'excuse des fois, j'ai tellement vécu en anglais que j'ai des expressions qui sont pas françaises.
Ben non, pas de.
Mais c'est ça, c'est de cueillir au cours de notre vie des perles comme ça qu'on nous tend. Je ne sais pas si tu as remarqué l'anecdote de ma grand-mère. Tu sais, quand j'avais 7-8 ans, là, je l'attendais pendant qu'elle mettait son rouge à lèvres pour aller à l'église.
Oui. Vous avez demandé si les plis faisaient mal, puis elle répondait juste dans le miroir, c'est ça?
Oui, elle a dit ça fait juste mal dans le miroir. Alors là, aujourd'hui, je suis rendue à la... Là, moi, je vais être septuagénaire très bientôt, là, puis là, je comprends très bien ce qu'elle veut dire.
Oui. Hey Charlotte, ça a été effectivement un plaisir de se parler. Ça a été à la hauteur de ce que tes amis avaient dit de toi et j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler parce qu'il y a plein de sujets qu'on pourrait traiter ensemble. Donc, je prends note de regarder ton texte et de le rendre disponible pour nos auditeurs. Alors, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Charlotte Boulanger.
Ça me fait plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Ich bin der Quatsch. Yann, Echa Chiku Yann, Nete Nina.
C'était Noutaoué, une chanson en Innu de Claude McKenzie. Pourquoi une chanson en Innu? Ben, d'abord, on a parlé avec Mario Saint-Amand qui a fait des études, certificat en études autochtones. On a peu eu la chance de lui parler, mais vous avez vu comme il est en verve et en passion. Alors peut-être aurons-nous l'occasion de le recevoir à nouveau. Et bien sûr, une chanson en Innu parce que c'était un peuple dont la personne dont j'ai envie de vous parler était très, très proche. Vous avez peut-être deviné que je veux vous parler de Serge Bouchard, parce que comme bien des gens de radio, j'ai ressenti une grande peine cette semaine avec le départ d'un grand, grand homme de radio. La presse a titré l'annonce du décès de l'anthropologue, auteur et animateur « Un phare s'éteint ». Et c'est pour moi et sans doute plusieurs d'autres personnes qui étaient à l'écoute les dimanches soirs des chemins de travers depuis très longtemps. Pour moi, c'était effectivement un phare, un homme d'une grande humanité, d'une grande bienveillance, de connaissances approfondies, très fines sur notre société, avec une capacité de les dire d'une manière à rejoindre tout le monde. Il avait une affection particulière, notamment pour les Innus, en avait rencontré plusieurs dans le nord du Québec, et j'ai toujours apprécié son acuité, son regard très particulier et fin, et encore une fois plein de bienveillance sur notre société, et sa voix. Depuis 25 ans à la radio de Radio-Canada, 375 émissions des chemins de travers notamment, et on m'a dit que ça durait 4 heures au début ces émissions. Donc, c'était vraiment des rendez-vous radiophoniques. Récemment, il animait une émission avec Jean-Philippe Plot qui s'appelait « C'est fou » à Radio-Canada Première. Et Jean-Philippe, à l'annonce de son départ, nous a dit qu'il appréciait sa vision de l'ordinaire, son désir de transmettre, son respect pour chaque humain qu'il rencontrait et que la grande qualité qui résume tout ça, c'est le mot « sage ». Serge Bouchard était un sage. Il avait donc cette capacité de rejoindre autant les libraires, les intellos, que les camionneurs du Nord à qui il avait dédié sa mémoire, sa thèse de doctorat plutôt, parce que son mémoire de maîtrise était sur le savoir des chasseurs Innus du Labrador. Donc, un homme vraiment très, très, très complet, qui a subjugué des publics très différents dans ses conférences. Il a parlé autant à des aidants naturels, des gens en fin de vie, des gens de l'armée et des membres du personnel d'Hydro-Québec sur la Côte-Nord. Alors pour moi, c'est ça, un grand communicateur. C'est quelqu'un qui ne nivelle jamais vers le bas, sans snobber jamais personne, qui cherchait à être clair et à rejoindre tout le monde. Alors, je me dis, si j'avais à faire le plus beau des hommages à Serge Bouchard, ce serait de dire, soyons curieux. Curieux d'univers différents des nôtres. Essayons de regarder toute situation avec bienveillance. Prenons un café avec quelqu'un qu'on aime. Il a d'ailleurs écrit un livre magnifique, Un café avec Marie. Marie-Christine Lévesque, qui était sa seconde épouse, avec qui il a réalisé plusieurs projets professionnels, dont la série Remarquable oubliée. Donc, un café avec quelqu'un qu'on aime, bien sûr, si c'est en Zoom, c'est en Zoom, mais de nourrir cette relation de complicité-là. De prendre le temps d'écrire quelques pages chaque semaine, que ce soit le début de votre autobiographie, des confidences ou encore un début de poème. D'oser prendre quelques chemins de travers, et de pouvoir faire quelque chose dont on se dira plus tard que c'est fou. Alors, je lui laisse les derniers mots. Quand on aime, on s'expose, on se rend vulnérable, on s'ouvre au monde. Et ce monde est extrêmement cruel en retour. Malgré tout, moi, je suis un homme qui a été aussi heureux que malheureux. Bref, j'oserais dire que Serge Bouchard a été un homme qui a vécu, de façon magistrale. Merci beaucoup pour avoir été ce phare à travers tous les chemins de travers, Monsieur Serge Bouchard.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Maintenant qu'il est loin d'ici, En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
C'était « Mon vieux » de Daniel Guichard, une belle découverte de notre recherchiste Catherine Bourderon. On la remercie d'ailleurs, ainsi que toute l'équipe. Cette semaine, Mathieu Tessier en régie, Louis Garon, chef d'antenne. Et si vous souhaitez entrer en contact avec nos invités, Mario Saint-Amand Universitaire. C'est le nom de sa page Facebook. Charlotte Boulanger, on la retrouve sur LinkedIn. La semaine prochaine, André Pelletier de Maelstrom Créatif sur la Société des loisirs. Et les coups de cœur de la semaine intergénérationnelle avec Fatima Ladjadj. Alors, je vous souhaite de magnifier des petits bonheurs pour en faire un beau bouquet de plaisir. Bonne semaine!